Comment construire collectivement un environnement en ligne plus sûr et transparent ? Alors qu'un projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique est en travaux à l'Assemblée nationale, la question apparaît essentielle. Pour en discuter avec nous, Suzanne Vergnol, docteur en droit, qui a récemment écrit un rapport visant à renforcer la coopération avec la société civile dans la mise en œuvre du Digital Services Act, ou DSA, en plus court, le règlement européen sur les services numériques. Et à partir de l'exemple de ce DSA, nous allons réfléchir ensemble et discuter sur comment mettre en œuvre des mesures de transparence et comment la société civile peut contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm ou ton chat. Donc bonjour Suzanne, tu es avec nous en studio. Merci de joindre nous.
Bonjour Étienne.
Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais bien te présenter s'il te plaît ?
Oui, bien sûr. Alors donc je suis Suzanne Vergnol, docteur en droit et maître de conférence au Conservatoire National des Arts et Métiers, abrévié CNAM, qui est ce vieux bâtiment au centre de Paris qui a notamment pour mission de préserver les savoirs et de participer à la diffusion de la connaissance.
Est-ce que tu pourrais peut-être me préciser un peu ton rapport aux questions, aux enjeux plus largement des libertés informatiques et aux questions du logiciel libre en particulier ?
Oui, bien sûr. Donc je dirais que mon rapport aux libertés numériques, il est assez puissant et assez fort. Il m'occupe au quotidien depuis pas mal d'années maintenant. Au tout début de mes études en droit, je me suis un peu questionnée sur les interactions qui pouvaient exister entre la société, le droit, évidemment, et les technologies. Et je comprenais bien qu'il y avait un espèce de rapport entre ces trois grands secteurs, mais j'avais envie de comprendre comment ça pouvait effectivement interagir. Et j'ai effectué un master en droit à San Francisco. Et j'ai travaillé, à l'époque, c'était sur principalement la propriété intellectuelle. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était un domaine qui avait des lobbies très, très puissants depuis de très nombreuses années, qui étaient très installés et qui avaient tendance un petit peu à distordre parfois les avancées technologiques au profit de leurs intérêts propres. Et que quand on était juste des individus ou des petits collectifs associatifs, etc., c'était très dur de peser dans le processus législatif ou dans le processus de proposer une autre voie. Alors heureusement, il y a d'autres éléments, genre Creative Commons qui est quand même sorti, mais on se rend bien compte que c'est quand même un secteur assez difficile. Et j'ai découvert en réalité le domaine du droit de la vie privée. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai découvert le droit du numérique. Et j'ai entamé une thèse à l'Université Paris Panthéon-Assas où je me suis questionné sur l'effectivité de la protection des personnes par le droit des données à caractère personnel. Alors très concrètement, c'est en gros identifier les objets du législateur. Qu'est-ce que le législateur, quand il a adopté la loi informatique et liberté le 6 janvier 1978 en France, qu'est-ce qu'il voulait concrètement faire ? Et essayer de comprendre quelle était la différence entre les objectifs de ce législateur d'une part et puis la réalité des pratiques informatiques d'autre part. Et donc, tout au long de ma thèse, qui est assez longue et assez développée, je formule des recommandations, des analyses pour essayer de garantir une meilleure protection des personnes dans un environnement numérique mouvant. Et mon rapport au libre, je pense qu'il a commencé quand j'ai travaillé entre 2013 et 2015 chez Etalab, donc le service du Premier ministre en charge de l'ouverture et de la réutilisation des données publiques. Et en fait, ça me paraissait, c'était un peu inhérent à la mission de Etalab, qui était de dire, en fait, on est obligé d'avoir du logiciel libre parce que, en fait, c'est démocratique, parce que tout le monde peut y avoir accès, parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Et donc, si on veut être un État démocratique inclusif, il faut qu'on ait du logiciel libre. Et ça s'est poursuivi dans mon activité associative. Une fois que j'ai quitté Etalab, j'ai notamment été administratrice de Regards Citoyens. Et là aussi, 100% logiciel libre. On travaillait uniquement avec des outils libres. Et pour une juriste comme moi, c'était une expérience très, très intéressante parce que ça me faisait aussi découvrir un autre monde, d'autres communautés avec des intérêts plus universels en réalité. Et peut-être pour un dernier mot, donc aujourd'hui, je suis maître de conférence en droit du numérique au CNAM Et en fait, le rapport que tu mentionnais tout à l'heure, il est lié à un contact qui a été pris par des associations qui sont venues me proposer de travailler, de chercher effectivement sur un rapport en lien avec les interactions entre la société civile et la mise en œuvre concrète par la Commission européenne principalement, mais aussi par les régulateurs nationaux, du Digital Services Act, qui est le règlement sur les services numériques qui a été adopté en octobre 2022 et qui est progressivement en cours d'être mis en application.
Justement, c'est pour ça qu'on t'a proposé, enfin, t'as pris contact même avec nous pour nous parler de ce rapport, et on s'est dit qu'effectivement, il y aurait sans doute matière à discuter, déjà de ce rapport particulièrement, et puis au-delà de ça, de tirer les enjeux plus globaux sur ces questions de la régulation aussi, des espaces numériques. Ça touche beaucoup à ce que fait l'April, puisqu'on agit là-dessus. Et comme tu disais, la technique n'est pas neutre, il y a des rapports de force politiques qui s'inscrivent dedans, des différents intérêts qui vont parfois s'opposer, et donc il y a des actions politiques à mener, et c'est intéressant de voir. Justement, comment s'appuyer aussi sur ces textes. Est-ce que tu veux nous présenter rapidement, de toute façon on va rentrer dans les détails après, mais déjà nous dessiner les grandes lignes de ton travail sur ce rapport?
Oui, bien sûr. Donc les objectifs de mon rapport, c'était effectivement de proposer des recommandations et des conseils pour garantir l'implication fructueuse et utile pour les organisations de la société civile dans la mise en œuvre du DSA. Alors la mise en œuvre du DSA, elle est assez compliquée parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau national, avec des régulateurs nationaux qui vont avoir un champ de compétences. Et puis, il y a aussi le niveau européen, où en fait, c'est la Commission européenne qui est chargée de s'assurer de la conformité aux règles prévues par ce texte pour les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche. Donc, ceux qui ont le plus d'impact pour la société et pour les Européens. Pour les Européens. Et donc... La volonté de mon travail, c'était vraiment de baser non seulement mon travail sur des recherches juridiques, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que le règlement permet en termes de collaboration avec la société civile, mais aussi de m'informer grâce à des entretiens que j'ai pu effectuer avec des experts, avec des personnalités qualifiées, sur qu'est-ce qui fonctionne dans des coopérations et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et donc d'apprendre un petit peu de ça, et puis derrière de formuler des recommandations. Donc mon travail, il a été principalement orienté vers la Commission européenne, parce que c'était notamment un des régulateurs clés, et surtout parce que c'est une des rares fois, première fois presque, que la Commission européenne est chargée de mettre en œuvre concrètement un texte juridique avec des pouvoirs d'enquête, des pouvoirs de sanction, etc. Donc presque un rôle quasi juridictionnel, quasi juge, alors même que c'est pas dans son champ, dans son domaine d'action générale. Pour rappel, la Commission européenne, c'est l'exécutif de l'Europe, et donc elle propose des textes juridiques. Elle a pas trop comme mission générale, généralement, d'agir pour faire en sorte que ces textes soient concrètement respectés. Et donc, avec cette opportunité de ces nouveaux pouvoirs qui lui sont conférés, en fait, il y a un terrain à construire. Et dans ce terrain, l'idée, c'était de mettre aussi de la société civile et de l'intelligence collective au sein de la en accord, en rapport avec la Commission européenne, pour que ces pouvoirs soient mis en œuvre de manière intelligente et cohérente.
Comme tu nous l'expliques, c'est vrai que le Digital Services Act, le DSA, est en fait très vaste. Toi, finalement, notre sujet, là, ça va pas être d'en parler globalement du DSA, on va parler de quelque chose d'assez précis, mais peut-être qu'on peut présenter quand même un peu ce que prévoit ce DSA, dans quelle histoire il s'inscrit. Alors d'ailleurs, on peut parler du DSA, il faut aussi parler, c'est pas le seul texte qui a été voté, il y a aussi le DMA qui est sur les marchés numériques. Là, on va pas du tout en parler, mais c'est vrai que voilà, c'est des textes jumeaux, on va dire, qui ont été élaborés concomitamment. Voilà, il y a une longue histoire, tu as parlé des grandes plateformes, et en fait, c'était un enjeu qui date de 2001, où c'était en fait l'ancien régime juridique, de responsabilité des acteurs, il y avait les hébergeurs d'un côté, les éditeurs de l'autre. C'était vraiment une distinction essentielle sur comment fonctionne le régime de responsabilité des acteurs du numérique. Et donc, ce n'était pas rien de remettre en cause un peu cette dichotomie presque sacrée pendant un moment. Il y a eu beaucoup de craintes. Je pense que les craintes qui ont été exprimées de cette remise en cause entre éditeurs et hébergeurs n'est pas trop... Enfin voilà, c'est révélé plutôt rassuré. La crainte étant de faire peser une très grande responsabilité sur les personnes, sur les intermédiaires qui se contentent d'héberger du contenu sans qu'ils aient à regarder ce qui se passe. Là, ça pourrait être très inquiétant. Et une des solutions que tu as évoquées, c'était de créer un peu une régulation spécifique pour les très grandes plateformes. Voilà. Donc, est-ce que tu seras en capacité de nous présenter un petit peu justement les points d'équilibre qu'a trouvé ce texte ? Qu'est-ce que prévoit ce DSA pour qu'on ait quand même une idée un peu globale de ce dont on parle ?
Alors, en réalité, c'est vrai que la construction du droit, du commerce électronique, de cette responsabilité, elle remonte au tout début des années 2000. Elle remonte même, en fait, à la loi américaine Communication Decency Act de 1996, qui a créé la Section 230, dont on a beaucoup parlé à l'occasion de l'élection de Donald Trump, où, en fait, c'était globalement le principe posé, c'était de dire, quand on est hébergeur, on héberge du contenu et donc on ne peut pas être tenu responsable de ce contenu en cas d'illicéité du contenu. Contrairement au statut d'éditeur, qui est par exemple un éditeur d'un journal, l'éditeur en chef du Monde, il peut être tenu responsable si au sein du Monde, il y a des contenus à caractère raciste, xénophobe, etc. Parce qu'il a un pouvoir de contrôle vis-à-vis de ce contenu. Et donc, à cette époque, l'idée c'était vraiment de dire on ne peut pas faire peser une responsabilité aussi forte sur des gens qui ne font que mettre à disposition des serveurs, en réalité. Et donc, que ce soit aux États-Unis, en Europe, on a pris ces principes qui étaient de dire immunité de responsabilité, pas de responsabilité pour les gens qui ne font que des choses purement techniques. Donc, ça va être des mises en cache, ça va être de l'hébergement et ça va être de la simple transmission. Et ces trois statuts qui sont créés en 2000, ils sont repris à l'identique dans le DSA. Et les principes de responsabilité sont également repris à l'identique dans le DSA. Qu'est-ce qui change ? C'est que à ces principes de responsabilité limités, atténués, parce qu'en fait, on ne peut être responsable que si on est au courant qu'on a du contenu sur sa plateforme et qu'on n'agit pas dans un délai raisonnable pour le retirer. Et donc, en fait, adossé à ce principe de responsabilité, on va rajouter des obligations. Et c'est là où le DSA a une espèce d'innovation, c'est qu'on va rajouter des innovations qui dépendent non seulement de la taille du service, mais aussi du contenu, du type de service qui est proposé. Et on a donc des catégories de services qui vont avoir des catégories d'obligations qui vont être différentes. Et plus on est un service qui est grand et qui pose des enjeux importants pour la démocratie, parce que viralité des contenus, parce que capacité de toucher un public très très grand, et plus les obligations vont être importantes. Et donc ça, c'est vraiment la logique même du DSA. Et dans le DSA, donc on a des nouvelles obligations dites de diligence, où les plateformes doivent, en plus de ces principes de responsabilité atténuée, retrait des contenus quand on en a connaissance ou conscience, ils vont devoir mettre en place, au sein de leur service, des mécanismes pour s'assurer qu'on n'a pas, par exemple, des risques systémiques. Ça, c'est applicable, par exemple, pour les très grandes plateformes. Qu'on valorise pas le contenu raciste, contenu discriminatoire, contenu sexiste, etc. Et donc, ils vont devoir évaluer leur service et faire en sorte qu'ils soient en conformité avec les objectifs d'un environnement plus sûr et plus transparent. Et donc, dans ces obligations, on a deux types d'obligations. On a des obligations de transparence et des obligations de diligence, de conformité. Et à l'intérieur, il y a encore d'autres sous-catégories. Et donc, c'est vrai que c'est un texte assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'acteurs et on sort un petit peu de cette relation bilatérale qui a longtemps existé entre les plateformes et le régulateur et on rentre dans une nouvelle ère parce qu'il y a cette transparence qui est très, 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 très présente dans le texte.
Alors, je ne veux pas passer à côté de mentionner l'acronyme qui est sorti un peu de ce texte. Hein, on parle des VLOP, hein, pour les Very Large Operating Platforms, me semble-t-il. J'ai un doute sur le
Online.
O. Online, merci. Oui. Pourtant, c'est évident. Voilà, donc qui je pense, a amusé pas mal de personnes. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, et bravo en fait pour cette synthèse qui est quand même pas évidente sur un texte qui est quand même très complexe. Donc, on sent aussi ta profession professorale. Pardon, voilà, bon. Et la difficulté pour les plateformes dont on sait qu'elles fonctionnent en réalité sur la viralité, notamment la viralité en fait des contenus racistes notamment ou à friction, voilà, qui créent de la tension et de l'effet négatif. Putain, m'échappe. Excusez-moi, je m'embrouille. Donc, merci pour cette précision. Et puisqu'on parle de contexte, je pense qu'il est intéressant, et ce que je l'ai évoqué notamment, on parle aussi un peu du contexte français et actuel, parce que là, il y a un projet de loi qui est en cours de travaux, comme je le disais, en cours de discussion à l'Assemblée nationale, le projet de loi SREN, Sécurité et Régulation de l'Espace Numérique, dont on parlait justement les Costis dans leur chronique juste avant notre échange. Donc, il y a ce projet de loi qui est en discussion, qui a déjà été discuté au Sénat, qui vient d'être discuté en Assemblée, en commission, et qui la semaine prochaine repart en séance publique, donc elle suit sa navette habituelle. Alors, c'est intéressant qu'on ait finalement ce projet de loi alors même qu'on a un règlement européen, et les règlements européens, on le rappelle, sont d'application directe, ce n'est pas une directive qui nécessite transposition, donc en fait, quelque part, quelle est la raison d'être de ce projet de loi SREN, et qui lui-même intervient, on le sent, alors c'est vrai au niveau de l'Europe, mais c'est particulièrement vrai au niveau français, il y a une forme de surlégifération, on aime beaucoup légiférer sur le numérique, inventer des choses. Il y a quelques années, les années récentes, on a eu une loi contre la haine en ligne, par exemple, qui a été largement censuré par le Conseil constitutionnel, mais c'était à nouveau cette volonté de rendre toujours les plateformes non seulement responsables, mais vraiment presque responsables de la mise en œuvre des lois directement, notamment voilà, de l'encadrement de la liberté d'expression en ligne, qui ne devrait pas reposer spécifiquement sur ces plateformes. Bon, là, je pars sur d'autres débats. Donc voilà le contexte français. Qu'est-ce que tu pourrais, quel regard tu peux nous apporter justement sur celui-ci?
En effet, il s'agit d'un règlement, et donc pour nos auditeurs qui ne sont pas experts de droit européen, c'est tout à fait juste qu'un règlement, en principe, il est d'application immédiate. Toutefois, ce qu'on constate, c'est que dans le DSA, dans le règlement, on a quand même quelques dispositions qui laissent un peu de marge de manœuvre aux États membres, notamment rien que celle de désigner quel sera le régulateur qui sera en charge de mettre en œuvre au niveau national les règles qui sont applicables aux services intermédiaires. Et donc, rien que là-dessus, le législateur français devait intervenir pour au moins nommer un régulateur national, un Digital Service Coordinator, un coordinateur des services numériques, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, parce qu'il coordonne potentiellement avec d'autres autorités les enjeux liés aux services numériques. Et en France, ce qui est le régulateur qui est pressenti, qui sera très certainement celui qui sera nommé, ça sera l'ARCOM. Et ils ont beaucoup la volonté de travailler avec les autres autorités, notamment la CNIL, en matière de protection des données, parce qu'il y a des dispositions, par exemple, en matière de publicité ciblée, protection des mineurs, qui sont plutôt de la spécialité de la CNIL que de l'ARCOM, et donc de travailler en bonne entente ensemble.
Je précise juste que l'ARCOM, alors c'est une institution qui est récente, donc tout le monde n'en a pas forcément entendu parler, c'est la fusion de l'ADOPI et du CSA, qui a de nouvelles en plus, des nouveaux pouvoirs, voilà, responsabilités, voilà, c'était simplement pour préciser. Oui.
Et donc, quelle est la raison d'être de ce projet de loi? À mon sens, c'est de s'assurer qu'on ait quand même un régulateur qui soit présent le plus tôt possible pour qu'il puisse avoir une légitimité dans ses travaux le plus tôt possible, rien que de mise en place et d'accompagnement de la Commission européenne qui a besoin des régulateurs nationaux. Et en fait, alors là, c'est vraiment en tant que juriste, la crainte que je vois avec la volonté du législateur français de vouloir modérer, notamment d'imposer aux navigateurs des suppressions, comme c'était dit dans la chronique tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on a déjà beaucoup d'articles dans le DSA. On a déjà une législation qui s'applique au niveau européen, donc une charge qui est quand même assez importante pour les entreprises qui travaillent au niveau européen. J'ai peur que de vouloir trop faire en même temps, trop de choses en même temps, ça risque de juste pas bien prendre et que la mayonnaise retombe, alors même qu'on a un texte qui est issu d'un consensus qui est assez cohérent. Et donc, peut-être mon petit mot à l'égard du législateur français, c'est d'être vigilant, de s'assurer de ne pas vouloir trop aller loin, parce qu'on a déjà un texte qui est très ambitieux et qui est très intéressant en termes de protection des libertés en ligne.
Et je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on voit aussi comme finalement la législation entre l'Europe, la France, c'est pas juste de la législation technique, il y a aussi beaucoup d'enjeux politiques. On sait que la France occupe une place particulière dans l'Europe, aux côtés de l'Allemagne. Il y Il y a cette volonté aussi d'être moteur et peut-être aussi dans cette idée de, en imposant, en faisant de la législation au niveau national, d'essayer d'influencer finalement l'évolution des législations au niveau européen. Et on sent peut-être aussi cette tension qu'il y a pu y avoir. On sait que sur d'autres textes, parfois certains textes ont essayé d'anticiper les travaux au niveau européen et ça peut se ressentir là.
Oui, et le règlement sur les services numériques, le DSA, il a été justifié non seulement parce que en fait les règles européennes de la directive de 2000 étaient un petit peu trop vieilles, disons, mais aussi parce qu'il commençait à y avoir des pays qui adoptaient leur propre législation, notamment l'Allemagne avec la loi NetzDG, qui a été une loi qui a été énormément décriée en Allemagne, et puis évidemment avec en France la loi contre la haine en ligne qui a été complètement retoquée par le Conseil constitutionnel, mais qui a retrouvé son chemin via la loi contre le séparatisme quelques années plus tard. Et donc, en fait, on avait des dispositions nationales qui créent un espèce de problème parce qu'on n'aime pas en Europe quand il y a des différences entre les États et on aime que ce soit le plus simple pour une entreprise sur le territoire européen de se conformer à la loi.
Tout à fait. Excuse-moi, je me perds dans mes notes parce que je me suis rajouté une question. Et si elle ne me revient pas, ce n'est pas grave. La particularité, on rappelle aussi, parce que tu as pas de responsabilité, c'est vrai que là où ça vient créer un enjeu, c'est notamment cette loi Avia contre la haine en ligne, c'est que ça a pour ambition d'imposer des délais très précis, soit 1 heure, 24 heures de retrait de contenu. Donc on voit bien que la question ne se pose pas pareil pour des très grandes plateformes avec des très grands moyens et pour des plus petites plateformes, et quel impact ça peut avoir. Là où tu parlais juste avant de responsabilité, de devoir retirer du contenu une fois qu'on est informé, qui est un peu le régime de base, c'est un critère beaucoup plus flexible qui est celui de la due diligence, en fait, qui s'adapte aux réalités concrètes, matérielles des personnes. En gros, comment est-ce qu'elles donnent les moyens suffisants pour répondre à leurs responsabilités. Et on voit bien comment avoir des mesures précises, des délais précis peut impacter ça. Et c'est un peu une des craintes, il y a cette volonté sur l'infiltration.
Mais à vrai dire, même pour les très grandes plateformes, les délais d'une heure ne me permettent pas, même à une très grande plateforme qui a une armada de juristes, etc., de prendre une décision informée, pondérée, dans les temps, etc. Alors pour certains contenus, quand on pense à la diffusion en direct d'attentats, on se dit effectivement, il faut couper le plus vite possible et après se poser des questions. Mais en fait, ça, c'est vraiment le gros risque qu'on a en termes de modération des contenus. C'est le risque de surcensure, c'est-à-dire de censurer pour éviter la responsabilité. Donc, de se dire, dans le doute, je préfère retirer le contenu et donc potentiellement porter atteinte à la liberté d'expression et d'information des personnes plutôt que de prendre le risque, en tant que plateforme, de voir ma responsabilité engagée.
Absolument. Et on sait que pour les personnes qui s'intéressent à ce sujet, que la pédocriminalité et le terrorisme sont vraiment les deux épouvantails qui servent à faire passer ce genre de mesures. Je pense que personne ne défend le fait qu'il y ait la liberté d'expression de publier ce genre de contenu, hein, que s'agisse de pédocriminalité ou terrorisme, mais on ne peut pas finalement mettre à bas toute la défense et tout le régime de la liberté d'expression parce que ce genre de contenu existe. Et on sait que dès qu'il s'agit de censurer ou d'atteindre un peu la liberté d'expression, c'est les deux étendards portés sont les textes contre la pédocriminalité et contre le terrorisme. Ça fait des années que c'est vrai. Je me rappelle la question que je voulais te poser. Alors sur les débats sur loi service régulation des espaces numériques, et globalement, à chaque fois, c'est une rengaine qui revient. Là, on l'a encore entendu la semaine dernière en commission. Pourtant, on est en 2023, que Internet serait un Far West. Je cite très précisément une députée qui l'a dit. Qu'importe son nom, je ne me rappelle plus. On entend parfois qu'Internet serait une zone de non-droit, que ce qui est toléré dans la vie réelle ne devrait pas être toléré en ligne. Ce qui n'est pas le cas. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est en ligne est généralement bien plus légiféré que ce qui est hors ligne. Comment tu réagis, toi, quand tu entends ces... Qu'est-ce que ça t'évoque, cette idée du Far West d'Internet? Est-ce qu'il y a une réalité derrière cette expression?
Alors, c'est une expression qui a beaucoup été utilisée par le commissaire Thierry Breton au niveau européen, qui avait même fait des gifs avec des cow-boys, etc. Donc, c'était assez intéressant. Alors, je dirais que ça se vend bien en termes de communication. Pourquoi pas, effectivement, dire qu'il faut réguler, etc. Le message passe bien. Mais alors... Ce que j'ai envie de répondre, c'est que si effectivement, c'était tant un Far West, on n'aurait pas besoin autant de montée de cours en droit du numérique, on n'aurait pas besoin d'avoir autant d'heures de formation, que ce soit en termes de droit des données à caractère personnel, que ce soit en termes de régulation de la parole en ligne, que ce soit en termes de cybersécurité. On a des textes, ça prolifère. Rien qu'au niveau européen, récemment, on a le Data Act, le Data Governance Act, le règlement sur la protection des données, le règlement sur les données à caractère non personnel, et j'en passe, et j'en passe. On a énormément de textes. À vrai dire, en tant que juriste en droit du numérique, il y a beaucoup de sujets à couvrir. En fait, on n'a plus vraiment des juristes transverses, même. On a tellement de sujets avec des spécificités. Donc, c'est imagé, ça passe en termes de com, mais en termes de réalité, je pense que c'est assez loin de la réalité pratique des professionnels qui sont confrontés à une masse assez importante de textes qui arrivent, qui sont des textes longs, compliqués et pas forcément évidents à digérer parce qu'on comprend pas toujours exactement l'objectif, parce que les textes, c'est des textes donc compromis, donc parfois on a une phrase qui est un peu contredite par une autre ou ce genre de difficultés, et donc aussi on va avoir comme on a en ce moment sur les sujets règlement sur la protection des données, RGPD, on a beaucoup d'interprétations qui sont en train d'arriver de la part de la Cour de justice de l'Union européenne et des CNIL, donc Commission nationale de l'informatique et des libertés, à peu près partout dans les États membres.
Et puisque tu parles de cette importance, on va dire, du corpus législatif qui concerne le droit du numérique, qui est effectivement du coup un droit très large, on va peut-être commencer à se poser cette question qu'on a évoquée, c'est comment collectivement est-ce qu'on peut agir pour déjà dans l'élaboration globalement des règles. Et c'était intéressant quand on a préparé l'émission, tu m'as dit que justement qu'il y a, alors, il y a des nouveautés dans le corps même du texte, mais même dans l'élaboration du Digital Services Act, du DSA, il y avait quand même des nouveautés aussi dans le rapport comment la société civile a pu être inclue dans le processus. Tu pourras nous en dire deux mots, et puis de voir aussi ce que propose du coup ce que prévoit plutôt ce texte en termes de transparence et d'intégration, de coopération avec la société civile. Mais avant d'attaquer ça, je pense qu'on peut se faire une petite pause musicale pour respirer un petit peu, et je vous propose d'écouter Playmate par Terror Bird, et on se retrouve dans environ 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause commune.
Je suis Étienne Gonu pour l'April, je suis avec Suzanne Vergnol, docteur en droit et autrice d'un rapport sur le sujet de comment construire collectivement un environnement en ligne plus sûr et plus transparent, en partant de l'exemple du Digital Services Act du DSA, le règlement européen sur les services numériques. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Alors avant la pause, on a bien pris le temps aussi de poser le contexte dans lequel s'inscrit notamment ce DSA, comment il a été, ce qu'il prévoit de manière générale, dans quel contexte politique il intervenait, ce qui se passe aussi en France. On peut maintenant peut-être rentrer un peu plus précisément dans notre sujet, qui est cette idée d'une construction collective, notamment de la comment mettre en œuvre des politiques plus transparentes. Et comme je le disais, dans ce DSA, et c'est ce que montre ton rapport, il y a des dispositions assez novatrices, il me semble que c'est ton terme, sur cette idée de mesure de transparence. Est-ce que tu veux nous présenter cela?
Alors, la première chose à avoir en tête, c'est qu'il y a plusieurs justifications à ces mesures de transparence. Et il y en a une qui est la même que celle qui existait déjà dans les années 2000, avec l'adoption de la directive 2031 sur directive e-commerce. C'est de garantir la confiance dans l'environnement numérique. Alors, en 2000, on avait peur que les gens n'osent pas aller en ligne, n'osent pas faire leurs achats en ligne, etc. On est très loin de ça. Mais on a quand même des vrais problèmes de confiance aujourd'hui. En 2023, on a encore des gens qui sont victimes d'usurpation d'identité, qui ne veulent plus jamais mettre un pied sur Internet et qui donc se privent potentiellement de ce que ça a à offrir. Bon, là, c'est un exemple un peu extrême, mais on a quand même encore des problèmes de confiance qui sont différents, mais qui sont toujours présents. Et cette transparence, en quelque sorte, elle permet de rétablir la confiance, comme c'est souvent le cas quand on prend des mesures de transparence, et de montrer, en fait, vous imaginez des choses, voilà la réalité. Voilà le nombre de contenus qu'on retire, voilà le nombre de types de contenus qu'on a sur nos plateformes, comment c'est retiré. Est-ce que c'est de la part des autorités qui nous disent qu'il faut retirer, donc des injonctions, ou est-ce que c'est via des utilisateurs ou des signaleurs de confiance qu'on retire ces contenus? Donc, faire cette transparence, c'est aussi rétablir un peu de la confiance dans le fonctionnement des services. Et aussi, l'autre justification, c'est de rééquilibrer le déséquilibre informationnel qui existe un peu par nature entre les destinataires du service, donc en gros les utilisateurs, et les services intermédiaires, particulièrement les grandes plateformes ou les très grandes plateformes. Et la réalité, c'est qu'il y a peu de connaissances sur le fonctionnement des services. On sait qu'on subit de la publicité ciblée. On ne sait pas trop qu'est-ce qui est utilisé, quelles sont les données qui servent à nous cibler. On sait qu'on est soumis à des algorithmes de recommandation. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et en fait, ce texte, par ses multiples dispositions, il y en a plus que 80 quand même, vise justement à imposer de la transparence à tous les acteurs qui sont impliqués dans le DSA. Donc, on a de la transparence pour tous les services. Tous les services intermédiaires doivent établir des rapports de transparence. On a de la transparence qui est pour les régulateurs. Donc, les régulateurs nationaux doivent aussi établir des rapports pour dire qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, etc. La Commission européenne, les signaleurs de confiance. Et donc, en fait, à tous les niveaux, on a de la transparence. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant et qui est assez nouveau. Dans le sens où souvent on parle de transparence un peu comme carte joker quand on veut dire qu'on fait des choses pour les gens. Mais quand on regarde concrètement dans les lois, il y a rarement des vraies dispositions avec des vrais articles qui sont activables et qui permettent aux gens d'avoir accès à de la vraie information. Et donc on va avoir une masse un peu... D'ailleurs, il y a des collègues qui appellent le DSA le The Data Generative Regulation. Donc une pièce de loi qui vise à générer de la donnée et en réalité c'est tout à fait vrai, on va avoir des masses de données super intéressantes potentiellement qui vont pouvoir aider les destinataires des services, donc les utilisateurs à un peu mieux comprendre ce qui se passe sur les services.
C'est intéressant, genre, j'aurais dû commencer par cette question et tu l'as en fait je pense en bonne partie répondu, mais je pense qu'on peut quand même se la reposer de manière plus claire. De quoi on parle quand on parle de transparence? C'est vrai que c'est un terme, comme tu disais, c'est une carte joker qui est régulièrement invoquée. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi, en fait, c'est une question qui est de démocratie fondamentale? Nous, on défend, par exemple, à l'APRI, le logiciel libre, hein, dont un des buts est d'amener de la transparence sur la manière dont on va développer la technique. Et c'est pour nous un enjeu de transparence et un enjeu de liberté informatique pour tout le monde, hein, pas seulement pour les personnes qui développent. Pourquoi est-ce que lorsqu'on parle de législation, de démocratie, cet enjeu de la transparence, en le définissant, pourquoi est-ce qu'il est fondamental?
Alors, quand on parle de, je pense, de démocratie, voire de service public, pourquoi la transparence est fondamentale? Parce que En fait, le service public existe grâce à la confiance que les citoyens ont dans leur État, dans leur mode de gouvernance. Et sans cette confiance, on perd, entre guillemets, on crée du clivage, on crée des tensions. Sans cette confiance, on crée de la frustration et on risque d'avoir le chaos. J'exagère à peine, mais... et en fait, ces mesures de transparence, c'est aussi pour montrer aux citoyens de la réalité de l'action publique. Donc ça, c'est vis-à-vis du service public, mais de manière plus transversale, en réalité, en fait, là encore, c'est l'opportunité d'Internet, du numérique, qui permet de faire un choix assez facile de la transparence, parce qu'en fait, c'est un choix au début, on choisit de plus ou moins être transparent. C'est beaucoup plus difficile quand on écrit un livre, par exemple, de faire la transparence sur les différents éléments qui ont servi à l'écriture d'un livre, parce qu'en fait, c'est pas numérisé, donc il y a, entre guillemets, un coût supplémentaire de mettre à disposition. Alors que par défaut, la donnée, elle existe directement de manière numérique. Et donc, en fait, il y a cette idée, par défaut, de partager l'information. Et donc, en fait, pourquoi c'est important d'un point de vue démocratique aujourd'hui d'avoir des services numériques qui sont plus transparents? C'est parce qu'on vit démocratiquement aujourd'hui une crise de confiance, que ce soit dans nos institutions, dans nos représentants, dans les services qu'on utilise. On a du complotisme à tour de bras, on nous manipule, on ne sait pas qui est on d'ailleurs. C'est parfois un peu les politiques, c'est parfois un peu les grandes entreprises, c'est parfois un peu des communautés, etc. Et en fait... la transparence, ça permet aussi d'avoir un discours qui est plus ancré dans des réalités. Vous dites qu'il y a tant de contenu terroriste, mais en fait, quand on regarde concrètement sur les plateformes, il n'y a que tant de contenu réellement terroriste. Et donc, ça permet d'avoir des chiffres et de poser le débat dans une réalité concrète, pratique et réelle.
C'est ça qu'on entend, alors je ne sais plus où je l'ai entendu, mais... il y a eu un changement un peu dans les discours politiques notamment, et notamment sur, on va dire, les partis plus populistes d'extrême droite en particulier. On ne parle plus de, effectivement, il se passe telle chose, la criminalité augmente sur la base d'eux, mais on ressent, les Français ressentent bien qu'eux, etc. Et ça évoque plutôt le ressenti plutôt que finalement la réalité matérielle de ce qui se met en œuvre. Et cette idée aussi de la confiance que tu évoques à juste titre de manière régulière, c'est pour ça aussi, je pense, que dans le logiciel libre, pourquoi ça ne concerne pas que les informaticiens et les personnes en mesure de lire le code, c'est qu'on sait que d'autres personnes peuvent lire le code, et c'est juste sur quelle base on délègue cette confiance. Moi, je ne suis pas capable de tout comprendre sur tout ce qui m'entoure, mais je sais que ça amène à une sorte de garantie structurelle. Je sais un peu mieux sur quelle base j'accorde ma confiance. D'ailleurs, Laurent, dans sa chronique précédente, évoque cette question de confiance quand il dit ça a été développé, je crois, par des universitaires au Danemark. Bah, l'idée que ce soit des universitaires, on va peut-être plus facilement leur accorder la confiance parce qu'ils savent qu'ils sont tenus à une certaine déontologie, etc. Pour revenir à ce que tu évoquais, on entend souvent parler de cette transparence. Tu as dit que ça devait être activable. Et ça qui est intéressant, c'est que dans la loi, on a parfois tendance à faire des promesses ou poser finalement des encouragements à la transparence, des encouragements à certaines pratiques. Le fait que ce soit activable, finalement, donc en gros, c'est des vraies valeurs normatives, ça fait une grande différence. Je repense, et je pars un peu dans tous les sens, mais je le trouvais le parallèle intéressant, on avait évoqué quand on a préparé l'émission. On sait qu'une des premières, si ce n'est la première grande loi proposée par Macron, par la majorité présidentielle, c'était pour rétablir la confiance dans la République.
Dans la vie publique.
Donc c'était cette grande loi, cette grande annonce, et il y avait en fait rien de véritablement activable, justement. Alors je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, et puis après nous préciser justement qu'est-ce qui est activable et comment en fait du coup ça prend corps.
Non, c'est tout à fait juste à l'occasion des débats parlementaires, on les suivait avec les collègues de Regards Citoyens. On était dans les tribunes à l'Assemblée nationale. Donc d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez aller suivre les débats parlementaires dans les tribunes de l'Assemblée nationale. Il faut juste s'inscrire à l'avance et puis on peut aller directement dans l'Assemblée voir ce qui se passe. C'est très amusant de voir des petites enveloppes passer de député à député, etc. Bon, bref, parenthèse à part, on était très frustrés parce que ils parlaient tout le temps, enfin les députés parlaient en permanence de transparence, et il n'y avait aucune disposition concrète qui offrait de la transparence aux citoyens. Et là, dans ce texte, on a, comme je le disais, plus de 80 dispositions concrètes. Alors, pas juste à l'égard des grandes plateformes ou des plateformes, mais aussi à l'égard des régulateurs, etc., qui sont activables. Et là, je pense qu'il va falloir être très vigilant, parce que, comme toujours, on dit le diable se cache dans les détails. Je dirais même que le diable en droit se cache dans la mise en œuvre. Parce que, très concrètement, on a cette obligation générale, par exemple, de publier des rapports de transparence. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur de ces rapports? C'est ça qui est intéressant. Et en réalité, la plupart des très grandes plateformes ont mis en place des politiques de transparence et publient régulièrement des rapports de transparence. Ça avait été initié en 2011 par Google. Et ils publient donc chaque année des informations sur qui demande le retrait, quels sont les types de contenus qui sont retirés sur leur plateforme, etc. Mais si on veut pouvoir faire des vraies comparaisons assez fines, assez granulaires entre au sein d'État, sur certains contenus, etc., il va falloir que ces rapports de transparence aient une certaine forme de granularité et qu'ils soient assez fins, très détaillés, pour que ce soit vraiment utile. Et ça, c'est là où, en fait, la société civile va avoir sa place aussi. C'est parce que ces dispositions sont activables, mais il va falloir en profiter, il va falloir analyser ces données, regarder ce qu'il y a dedans, voir qu'est-ce qui se passe. Et donc, il y a un vrai rôle de la société civile et des organisations pour rester vigilant et de s'assurer que, en fait, cette transparence, elle n'est pas au service des services, au service des grandes plateformes, au service des hébergeurs, etc., mais qu'elle est au service des citoyens, de la démocratie, du débat public, de l'information basée sur la réalité. Et donc là, en fait, c'est vraiment le rôle, entre guillemets, de la société civile d'utiliser ces données pour en faire quelque chose.
Qu'est-ce qu'est cette société civile, du coup, qui va récupérer ces données? Comment faire en sorte qu'elles leur soient utiles? Voilà, moi, les idées qui me viennent, c'est les journalistes, les chercheurs et les chercheuses, les associations, peut-être. Enfin, voilà, pour toi, qu'est-ce que regroupe cette notion de société civile qu'on entend, en fait, très souvent, mais qui n'est pas souvent si souvent définie?
Alors, ouais. C'est compliqué. Dans mon rapport, justement, je me suis un peu confrontée à cette difficulté. La définition de la société civile, elle est en réalité très large. Elle inclut tout et rien, à part l'État. Moi, dans celle que j'ai retenue, j'ai considéré que, en tout cas, les acteurs principaux qui ont vraiment une place dans la mise en œuvre de ce texte, c'est évidemment les associations, les chercheurs, qui ont d'ailleurs, eux, des dispositions, et ça je le dis pour les chercheurs qui nous entendent, utiliser l'article 40 pour demander l'accès direct aux données des très grandes plateformes, qui sont donc des données qui sont censées être protégées, qui ne sont pas accessibles au grand public, mais qui sont seulement accessibles aux chercheurs. Et donc ça, c'est une petite voie royale qui leur est consacrée, en plus des dispositions générales de transparence. Donc on a dit les associations, qui constituent la société civile, les chercheurs. On a évidemment les citoyens, les personnes, et en réalité, moi, j'exclus plutôt l'industrie de cette catégorie, en tout cas de manière un peu réduite, en tout cas pour activer ces éléments qui sont dans le DSA, parce qu'en fait, il y a déjà des risques de droit de la concurrence, tout simplement, mais aussi parce que effectivement, je pense que c'est un texte qui donne du pouvoir aux citoyens et qui, ça serait beau qu'ils s'en saisissent.
Peut-être, je pense que ça peut être répondu rapidement, mais pour que ces données et ces rapports remontés soient activables et utilisables, j'imagine qu'il y a quand même des critères. J'imagine qu'il faut que ce soit des données, ce sont des standards ouverts, facilement accessibles. Voilà, est-ce que le texte prévoit sur ces questions? Parce que si on a les données version Google, qu'on est obligé d'utiliser les outils de Google pour les comprendre, ça atteint et ça limite la portée de ces droits.
Évidemment, dans toutes les dispositions qu'il y a, il n'y a pas autant de détails que ce qu'on aimerait. Et c'est là où, en fait, il va y avoir la commission qui va prendre des actes délégués, qui va pouvoir préciser dans quelles modalités les choses vont pouvoir être mises en place. En effet, alors pour l'instant, pour l'exemple de nos rapports de transparence, parce qu'on en a déjà pas mal parlé, pour celui-là, il faut que ce soit disponible au public, accessible sur une interface facile, etc. Mais il n'y a pas exact, enfin il n'y a pas, il n'y a pas encore le niveau de détail qu'on attend en termes d'accès automatisé et lisible par machine et ce genre de détails-là, parce qu'aussi on est sur un texte règlement, enfin on est un règlement, et il faut espérer que dans les actes délégués qui seront pris par la Commission européenne, ce soit un petit peu plus détaillé dans ce sens-là.
D'accord. Alors, une petite anecdote, et je vais pour refaire un lien rapide avec la loi, le projet de loi en cours sur sécuriser et réguler les espaces numériques, SREN. Alors, une des dispositions de ce projet de loi, c'est de mettre en place des systèmes de vérification d'âge pour les sites, et particulièrement les sites pornographiques, à caractère pornographique. Et il y avait un amendement du groupe écologiste pour exiger l'ouverture des codes de ces systèmes, pour faire transparence. Et qui donc vont être une traduction technique de l'exigence légale de la mise en place de ces systèmes. Et l'argument de la rapporteure, donc de la majorité présidentielle, pour donner un avis défavorable à cet amendement, et je cite quasiment mot pour mot, hein, elle a dit « En réalité, votre amendement, il est possible et souhaitable, mais nous ne souhaitons pas le mettre de manière obligatoire dans le texte, donc avis défavorable. » Donc, c'est souhaitable, mais on ne souhaite pas le rendre activable quelque part, on reste que dans l'incantation, quoi. Et on voit, voilà, je trouvais l'anglaise intéressante pour montrer toute la nécessité, finalement, aussi de la vraie loi, de donner des normes qui ont porté normative. Lorsque tu as présenté notamment ton rapport, tu as parlé de deux axes, celui de la transparence, et on voit aussi donc, tu as commencé à évoquer cette question de la place de la société civile dans l'élaboration des textes, et puis ensuite, et je crois que c'est vraiment en fait le cœur de ton rapport dans la mise en œuvre des politiques publiques. Je veux bien peut-être que tu reviennes sur ce que tu m'en avais un peu parlé quand on a préparé l'émission, sur... comment a été élaboré et préparé aussi ce DSA et la place qu'ont pu avoir des membres de la société civile, notamment des associations, dans le cadre de l'élaboration. On sait souvent quand les projets de loi, etc., l'April par exemple, s'il y a des projets de loi qui vont l'intéresser, qui vont toucher au logiciel libre, on va prendre contact avec des députés, on va pouvoir proposer les amendements. Ces contacts existent, mais ils arrivent finalement peut-être après, dans un second temps. C'est difficile d'interagir, notamment par exemple quand le gouvernement prévoit un projet de loi. C'est en général la société civile va plutôt intervenir dans un second temps au niveau du législateur.
Au moment où la procédure elle est transparente en réalité.
Au moment où la transparence.
Et encore une fois, c'est un des gros soucis qu'on a en France, où toute la préparation du projet de loi se fait de manière secrète, avec des réunions interministérielles qui produisent des documents qui ne sont pas accessibles du public, parce que c'est considéré comme un des secrets, dit le secret des délibérations du gouvernement, alors même que c'est un sujet purement démocratique et qu'on impose cette transparence au stade du Parlement. Et donc oui, ça c'est un des... À titre personnel, je considère qu'il faut absolument faire la transparence sur ces documents qui sont produits à l'occasion des délibérations qui sont faites par le gouvernement sur leur projet de loi pour savoir comment ont été opérés les arbitrages, parce que le citoyen a le droit de savoir quels ont été ces arbitrages et pourquoi ils ont été effectués. Alors au niveau européen, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que j'avais regardé pour la directive 95-46, qui est la directive de protection des données qui avait été adoptée il y a longtemps, en 1995, il avait fallu 6 ans, il me semble, pour adopter le texte. Le RGPD, il a fallu, donc ça a commencé en 2012.
Parce que le règlement général pour la protection des données.
Oui, le règlement général pour la protection des données, lui, il a commencé, la première proposition européenne était en 2012, il a été adopté en 2016, donc 4 ans. On sent qu'il y a des processus législatifs qui sont assez longs sur les sujets numériques. Et en fait, là, en ce moment, on a une accélération. Le DSA a été adopté, le règlement sur les services numériques et le règlement sur les marchés numériques, qui est le jumeau, la petite sœur, la grande sœur, enfin, ils font partie de la même famille. Ces deux textes qui ont été adoptés très rapidement. Et donc, on pourrait effectivement craindre que les processus d'écoute, d'entente n'aient pas été optimum. Moi, des retours que j'ai pu avoir de mes discussions avec les associations qui font du travail de lobbying au niveau européen m'ont plutôt dit on a eu la possibilité de se faire entendre. On n'a pas toujours été entendu, mais on a eu au moins la possibilité de se faire entendre. Et au sein de des services de la commission qui travaillaient sur ce texte, il y avait une volonté de faire participer la société civile. Alors, c'est pas toujours évident, hein. Mais en tout cas, de réserver du temps, d'éviter certaines sollicitations du secteur privé et de privilégier parfois celle des associations. Donc, c'est plutôt bon signe. Et c'est dans cet environnement que le texte a été adopté. C'est un texte, encore une fois, qui est assez long, assez compliqué, qui est un texte, comme toujours, de compromis, où il y a des thèmes qui sont rajoutés. Par exemple, il y a une réglementation des places de marché. Certaines personnes disaient qu'il faut une réglementation séparée parce que c'est un peu un problème différent du service assez classique type Facebook où on publie du contenu. C'est pas tout à fait pareil. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que Zalando, qui est une des très grandes plateformes qui a été désignée par la Commission européenne, conteste sur ce fondement même de dire nous, en fait, on fait pas exactement le même business que les autres, sur ce fondement même, sa désignation comme très grande plateforme. C'est vrai que la place de la société civile dans l'élaboration de ce texte a été, de ce que j'ai cru comprendre de la part des associations, plutôt pas trop mal. Et l'idée maintenant, on a le texte, c'est de faire en sorte que la société civile ait une place dans la mise en œuvre de ce texte, que ce soit au niveau national, mais aussi européen. Et donc, c'est l'idée de mon rapport, c'était de réussir à trouver un équilibre entre une coopération intelligente avec le régulateur et garantir quand même l'indépendance pour éviter en fait de faire du travail gratuit pour le régulateur et de perdre un petit peu cette capacité qui est quand même la capacité le fait d'être indépendant est absolument nécessaire, notamment vis-à-vis des plateformes, vis-à-vis des services, mais aussi vis-à-vis du régulateur. On voit qu'il y a des assos qui sont très qui font beaucoup de bruit par rapport au régulateur. Je pense notamment à l'association None of Your Business, qui est une association de protection des données à caractère personnel, qui est très vocale contre l'agence irlandaise de protection des données, qui fréquemment dit que ça ne convient pas, publie des documents et se fait menacer d'être poursuivi derrière parce que c'est des documents dans le cadre de procédures. Donc il y a quand même ce besoin d'indépendance parce que potentiellement les associations peuvent aussi faire des plaintes. Donc il y a quand même encore ce besoin d'indépendance.
Je précise que none of your business, ce ne sont pas vos affaires.
Oui.
Ce ne sont pas ces affaires. Donc il y a un enjeu, voilà, tu parles d'indépendance. Et alors la question, c'est comment faire en sorte qu'il y a, parce que à nouveau, et en France, et je pense que c'est le cas dans beaucoup d'autres pays, l'invocation du, alors c'est quoi les termes, le dialogue social, oui, il y a eu un vrai échange avec la société civile, etc. On nous le resserre quand même très souvent. Parfois, on peut assez légitimement, et je pense notamment à la loi sur les retraites, hein, où d'un côté, ça nous disait qu'il y avait énormément de dialogue. Bon, visiblement, on peut en douter. Voilà. Comment assurer la réalité de ce dialogue, la réalité de la contribution et de la place laissée à la société civile, aux acteurs et actrices de la société civile? Parce que là, l'enjeu, c'est facile de le dire, mais voilà, comment on évite le washing, le nettoyage, hein. On sait qu'il y a le greenwashing pour faire passer pour vert des politiques qui ne le sont pas. Et là, on pourrait avoir, imaginons, un contribution société, dialogue washing. Voilà. Comment faire en sorte pour qu'il soit réel, ce lien?
Alors, dans mon rapport, j'ai commencé par un petit peu cartographier les différents moyens qui peuvent exister pour impliquer la société civile dans la mise en œuvre des politiques publiques. Alors, évidemment, on a la consultation publique, qui est le niveau à peu près, de la coopération. On a l'existence de listes d'experts qui permettent d'avoir des listes de gens où, quand on a besoin, on les appelle et on leur demande de venir accompagner le régulateur ou l'autorité publique. On a l'existence de groupes d'experts, où là, en fait, c'est l'autorité publique qui fait partie, qui compose un groupe avec des experts et qui participe à ce groupe dans l'objectif de prendre en compte ses travaux dans le cadre de son activité. On a aussi les plaintes. Alors là, c'est un petit peu, c'est pas vraiment de la coopération, c'est plus on pousse vers un certain agenda. Et puis on a aussi les événements, donc en gros on organise une conférence, on organise un atelier, un workshop, on dit qu'on essaye de travailler. Et mon projet dans ce rapport, c'était de trouver quelque chose qui soit utile, non seulement pour les associations qui ont des ressources humaines et matérielles limitées. On a souvent des associations qui sont composées de bénévoles avec quelques salariés qui ont donc un temps assez limité pour tous les sujets qu'ils doivent traiter, mais aussi pour l'autorité publique, parce que pour elle aussi, c'est de l'investissement de mettre des personnes à disposition. Et dans, dans mes recommandations. Donc, il y a pas mal d'analyses sur comment est-ce qu'on crée un groupe d'experts dans lequel qui est fructueux pour tout le monde. Et d'ailleurs, à ce titre, j'ai été très agréablement heureuse de voir une offre d'emploi qui a été ouverte à l'ARCOM, donc l'autorité dont on parlait tout à l'heure, qui vise justement à avoir une personne qui est une personne chargée de mission qui fait la coopération, le trait d'union entre l'autorité et la société civile. Donc ça, c'est typiquement une super idée parce que ça va permettre de ramener les revendications de la société civile au sein même du régulateur ou, en l'occurrence, du régulateur, et donc d'avoir cette voix qui est portée. Et donc, plus précisément sur les groupes d'experts, j'ai toute une série de recommandations sur comment est-ce qu'on crée un groupe d'experts qui est utile pour toutes les parties prenantes, avec notamment des recommandations très pratico-pratiques, comment on fait les réunions, notamment comment on crée l'agenda. Donc, par exemple, qui écrit l'agenda? C'est celui qui a le pouvoir de déterminer les points qui vont être discutés. Donc, évidemment, un agenda qui est co-écrit, la capacité de pouvoir demander et obtenir un remboursement éventuellement pour des petites associations qui participeraient prêt à ce groupe. Beaucoup de recommandations sur ce groupe d'experts parce que, à mon sens, c'est un très bon moyen d'imposer en fait une présence pour la Commission européenne de la société civile et de s'assurer qu'en fait le travail de la Commission européenne est informé par la réalité du terrain. Parce que très concrètement, la Commission européenne ne reçoit pas de plaintes. Donc, c'est très intéressant de savoir qu'ils ont dit non, nous, les plaintes, ça ne nous intéresse pas. On n'a pas besoin, on va faire notre propre travail. Et donc, il va falloir quand même que le terrain vienne à eux d'une certaine façon. Et la meilleure façon, c'est d'avoir des experts société civile, que ce soit des chercheurs, des profs, des associations qui font ça au quotidien, qui ont une approche très pratico-pratique pour savoir quels sont les problèmes et surtout quelles sont les plateformes qui posent le plus de problèmes, quelles sont les plateformes sur lesquelles il faut mettre des moyens pour enquêter. Évidemment, ce groupe d'experts peut pas intervenir dans le cadre de l'enquête, mais au moins au moment de décider qui va être enquêté, que la société civile puisse avoir son mot à dire, ça me paraissait important. Et le groupe d'experts, le gros avantage, c'est que c'est un forum qui est établi. Donc, contrairement à une liste d'experts, on peut dire « oui, on a appelé des experts, on les a consultés ». Là, il y a un agenda sur le long terme, des agendas par séance. On a une volonté long terme d'inscrire une vraie place de la société civile dans le choix, la mise en œuvre, le suivi de l'application de ce texte. Et mon rapport s'intéresse principalement au niveau européen, parce que c'était, entre guillemets, l'urgence. Mais au niveau national, c'est parfaitement possible de faire la même chose. L'ARCOM pourrait très bien décider de mettre en place un groupe d'experts pour l'aider à décider qui doivent poursuivre, pour l'aider à décider quels sont les sujets difficiles, compliqués. Et d'ailleurs, c'est pas que l'ARCOM qui peut faire ça. La CNIL pourrait décider de faire ça. Les autorités administratives indépendantes pourraient très bien décider de mettre en place des collèges d'experts qui les aideraient dans leur travail au quotidien.
Donc, pour être clair sur la question, dans le DSA, il y a, il me semble, tu me corrigeras, le texte prévoit l'existence de ce groupe d'experts.
C'est formidable parce que ça ne le prévoit pas, mais tu as lu mon rapport et donc à la fin, tu es convaincu.
D'accord. Donc toi, ta recommandation, c'est il faut constituer un groupe d'experts avec des vigilances sur la manière dont il va s'organiser et se mettre en œuvre, parce que le but, ce n'est pas d'importer les rapports de force, parce qu'il y a des intérêts divergents. Donc je crois que tu m'avais dit que, par exemple, dans ta recommandation, il ne faut pas que les industriels, parce qu'ils sont déjà en position de pouvoir et de domination, leurs voix n'ont pas besoin d'être entendues dans le groupe d'experts. Voilà. Il faut aussi créer mais c'est tout ce que tu viens de dire, indépendant, ouvert, qui prend en compte la réalité aussi et l'importance structurelle. Voilà, vous voyez où je veux en venir, je vais arrêter de m'emmêler les pinceaux là-dedans. Donc voilà, ta recommandation est là. Tu as parlé, j'avais une question sur le chat de la radio. En fait, tu as déjà en partie répondu, mais tu peux compléter si tu le souhaites sur les moyens donnés à l'ARCOM pour réguler. Donc, on voit que l'ARCOM va recruter quelqu'un. On sait que les moyens humains, en fait, sont aussi souvent le nerf de la guerre sur la manière pour mettre en œuvre. Est-ce que c'est possible techniquement pour l'ARCOM d'intervenir? Ah, ça, je pense qu'on le verra. Mais déjà, des moyens, du moins, sont délégués par cet emploi.
Alors, il y a eu plusieurs fiches de poste qui ont été ouvertes avant même que l'ARCOM soit officiellement désigné comme autorité nationale le service coordinateur. Il y a plusieurs postes qui ont été ouverts. Évidemment, ça sera... en fait, c'est le nerf de la guerre pour toutes les autorités, mais c'est aussi le nerf de la guerre pour tout le monde. Parce que même les plateformes, aujourd'hui, alors, on part, entre guillemets, il y a tellement de choses à mettre en place qu'il va falloir qu'ils recrutent du monde. Et en réalité, il n'y a pas beaucoup de juristes qui sont formés. Enfin, il y en a, bien évidemment, mais l'absorption est très importante. Et donc, des profils compétents, c'est difficile d'en avoir. Et là, on est sur des textes qui sont très compliqués, qui requièrent une certaine expertise. Il y a des postes qui ont été ouverts. Il y a des moyens qui semblent être mis. Évidemment, toutes les autorités se battent chaque année pour avoir plus de moyens. Je pense concrètement que peut-être une bonne façon d'éviter une déperdition de l'énergie, c'est d'avoir des profils très différents, d'avoir des data scientists en interne qui peuvent faire de l'analyse, d'avoir des juristes, d'avoir des personnes qui ont une meilleure compréhension des politiques publiques. Et d'avoir en fait ces différents profils qui travaillent ensemble pour éviter que on parte sur une idée, un juriste parte sur une idée, mais qu'en réalité elle est infondée. Il n'y a pas de données. Encore une fois, on est sur la réalité pratique. Et je pense que une des forces des autorités, c'est de diversifier à l'intérieur, en interne, des profils. Donc ça serait une de mes recommandations qui n'est pas dans mon rapport, mais que je rajoute. Et aussi, évidemment, de travailler avec la société civile, parce que même si ça prend du temps, en réalité, pour le coup, quand je discutais avec par exemple l'UFC Que Choisir, lors de mes interviews, j'ai discuté avec une personne du UFC Que Choisir, elle me disait que eux, en tant qu'association, ils pouvaient transférer à la Commission européenne de la réalité de terrain que la Commission européenne n'avait pas du tout. Exemple, une pratique commerciale déloyale, le service dit qu'il n'y en a plus, et en fait, l'UFC Que Choisir continue de recevoir des plaintes. Donc en fait, cette information-là est vraiment importante.
Je vais me permettre, on arrive sur la fin de notre échange, malheureusement, qui est passionnant. Je vais me permettre de tirer un lien, il me semble, que je vois. Tu parlais de l'importance de la donnée, de la remontée. Cette question, et c'est après comment en donner de la valeur et comment faire entendre cette parole scientifique qui va pouvoir se construire sur la transparence des données. Et finalement, le groupe d'experts tel que tu l'as décrit, en fait, une réponse, et il faut donner les espaces pour que cette parole scientifique puisse être entendue. J'aimerais que tu nous proposes cette une conclusion sur les points forts à retenir et je te glisse une autre question dedans, c'est est-ce que tu es en confiance? Parce que là, finalement, on dresse un bilan plutôt positif et encourageant sur le DSA, mais voilà, sans être naïf finalement sur le contexte politique dans lequel il intervient. Voilà, quels sont pour toi les éléments importants à retenir?
Alors, je pense que le DSA, c'est un texte qui est opportun, qui arrive au bon moment et qui est plein de promesses. Il reprend les principes historiques et qui fonctionnaient de la directive e-commerce et il propose des nouvelles obligations qui visent à garantir un meilleur équilibre informationnel et à donner du pouvoir aux utilisateurs et à la société civile. Il y a deux grands thèmes qui ressortent de ce texte, à mon sens, et qui en font un texte fondé sur le collectif et la transparence. C'est évidemment la capacité de coopérer, qui est complètement en germe dans le texte, et les obligations de transparence qui sont absolument multiples et qui permettent justement de favoriser cette coopération. Est-ce que je suis optimiste? Je suis de nature optimiste, donc plutôt. Mais je pense en fait que c'est aussi à nous, individus, militants potentiellement, de vouloir se battre pour un environnement qui nous ressemble et qui ne soit pas complètement pris par des intérêts qui nous semblent antidémocratiques. Et donc, on a aussi un petit peu une responsabilité, nous aussi, les plateformes ont des responsabilités, mais en tant qu'individu, on a aussi une responsabilité de participer à l'élaboration de la mise en œuvre de ce texte.
notamment à travers des collectifs et voilà, comment collectivement intervenir sur ces sujets. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Et avant de se quitter, je vais te redonner un peu la parole, parce que ce n'est pas directement notre sujet du jour, mais c'est plutôt une actualité te concernant. Alors, tu proposes au CNAM une formation en anglais sur les règles et les politiques publiques en lien avec les services numériques. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots avant qu'on ne sait pas?
Oui, bien sûr. Donc, c'est un nouveau cours qui vise justement à étudier et analyser les nouveaux enjeux juridique et politique de ces nouveaux textes, donc du règlement sur les services numériques, mais aussi du règlement sur les marchés numériques. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi un texte très important. C'est un cours qui est entièrement dispensé à distance, qui vise justement à permettre à des juristes et non-juristes, des informaticiens, des curieux, de mieux comprendre l'ensemble de ces règles, de mieux comprendre les enjeux très concrets qui sont liés à la mise en œuvre concrète de ces rêves, par exemple les utilisateurs, le calcul, etc. Et ça, en fait, ça s'inscrit dans un objectif de former les juristes en France sur les sujets européens et de les former dans une langue qui est souvent leur langue de travail, ou en tout cas la langue d'édition, d'écriture des contrats, etc. Donc, leur apporter cette pratique. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation. J'étais très heureuse d'être ici et merci à tous. Vous êtes tous très professionnels.
Merci à toi, Suzanne. Donc, Suzanne Vergnol, tu es docteur en droit et tu as récemment écrit un rapport visant à renforcer la coopération avec la société civile dans la mise en œuvre du Digital Services Act ou DSA. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi.